Théologie en liberté. Présenté par Michel Jass.
Chers auditeurs, bonjour ou bonsoir. Voilà, je suis heureux de me retrouver parmi vous, par le miracle des ondes. Et je suis avec Suzanne Naquet, que j'ai rencontrée au groupe Nîmois Évangile et Liberté, et je l'ai trouvée très intéressante dans ses remarques, ses positions théologiques, etc. Alors, en fait, je lui ai parlé de cette émission Théologie en Liberté sur Radio Alliance Plus, et je suis donc heureux d'être avec vous, Suzanne. Bonjour.
Bonjour Michel.
Et en fait, de pouvoir faire connaissance et dialoguer un peu, voilà, sur cette théologie. On est tous des théologiens dans le protestantisme, laïcs ou pasteurs. Et parler un peu de vous, de votre sensibilité, et puis d'abord votre itinéraire, où est-ce que vous êtes né, vous avez grandi, comment vous avez connu le protestantisme, votre famille, si vous avez des enfants.
Oui, je veux bien. Je suis née en 1952. Et des fois, pour l'amusement, je dis toujours je suis un pur sang prussien.
Ah oui.
Donc, né en Allemagne, grandi en Allemagne, et j'ai quitté l'Allemagne à 26 ans. Oui. Une fois mes études universitaires terminées.
Mais c'était l'Allemagne de l'Est ou alors ?
Non, quand j'étais prussien, c'était donc l'Allemagne de l'Ouest.
Ah d'accord, vous avez, oui, votre famille était d'origine prussienne, et puis quand il y a eu le partage entre les deux Allemagnes...
Nous, c'était le côté ouest.
Voilà, vous étiez partie dans le côté
donc,
ouest.
Donc l'ex-RDA était juste présent dans mon enfance en faisant les colis qu'on envoyait aux familles qui se trouvaient dans le besoin de l'autre côté du mur.
Oui. Vos grands-parents étaient restés dans du côté...
Non, personne de ma famille directe, oui. Mais par alliance, par relation, on avait toujours des noms.
Oui,
Alors, dans mon absence, c'était uniquement présent par ces envois de colis,
oui.
Le contact avec l'ex-RDA.
Et vous n'y êtes pas allé voir...
Non, je ne suis jamais allée, sauf quand j'étais en... seconde au lycée, c'était le voyage traditionnel.
Oui.
De chaque lycéen allemand partait en voyage vers le Berlin Ouest pour maintenir le lien.
Ah, oui.
Et on passait une journée à Berlin Est.
C'est ça, oui, qu'une journée. Oui.
C'était une seule journée.
Oui, c'est pas comme Barbara que vous connaissez bien.
Ah, pas du tout, non.
Barbara à Uzès qui a son... Des souvenirs d'enfance où elle allait voir sa grand-mère en Allemagne de l'Est.
Oui, nous, ce n'était pas des familles directes. C'était uniquement par connaissance aussi quand on logeait après la guerre. J'ai grandi dans une grande, grande maison familiale avec trois générations.
Oui.
Et donc, dès qu'il y avait eu les réfugiés de l'Est après la guerre, les gens qui avaient de la place logeaient.
Oui.
Et ça faisait une famille par pièce.
Ah, c'est ça,
oui. Dans l'urgence. Mais ça, c'était juste avant ma naissance.
Ah oui.
Donc,
oui.
J'en connais quelques personnes qui sont restées après.
Oui. Et vous m'avez dit que vos enfants étaient en Suisse.
Oui, alors, enfin, si je reviens sur mon enfance, dans l'ordre.
Oui, oui, oui.
Alors, né en 52, et j'ai donc pas fréquenté un temple, mais nous, ce qu'on appelle une Kirche, une église.
Oui.
C'est une église du XIIe siècle.
C'est ça. Oui.
Avec un hôtel baroque.
Mm-hmm.
Il y avait beaucoup de choses à voir, et où la présence était obligatoire pour moi pendant toute mon enfance, pour le culte pour les enfants.
Ah, c'est ça. Oui.
Il y avait le culte pour les enfants, et ensuite le culte pour les adultes.
Oui.
Dans cet ordre.
Et donc, dans le cadre de l'animation paroissiale.
Oui, enfin, c'était une loi tacite. Enfin, c'était ni négocié, ni mis en question. C'était le déroulement du quotidien de la semaine.
C'est ça.
Kindergottesdienst, c'est-à-dire le culte pour enfants.
Oui.
Et donc ça, c'était mon habitude quand j'étais enfant. Et la confirmation se passait donc à 14 ans pour la classe d'âge de tous les enfants du village.
Oui.
Et comme j'étais la seule à être partie au lycée dans la ville. Je me souviens que par mes cours de biologie, je me pensais fort instruite déjà par rapport à la confession de foi.
Oui.
Et je me souviens que des fois, j'avais tendance à poser des questions, pourquoi il fallait confesser ceci ou cela. Et là, malheureusement, je pense que je n'ai pas eu des réponses qui auraient été adaptées.
Et oui.
Parce que je me suis rendu compte, maintenant que j'ai 73 ans, qu'à cet âge-là, déjà, ça correspondait à Évangile et Liberté.
Oui.
Ça correspondait à Libre Croyant. Oui. Et dans ma famille, comment dire, à la maison, ce n'était pas un obstacle. Ils étaient très libres croyants,
oui.
Je pense. Ma mère était peut-être plus emprise d'une piété, parce que c'était luthérien. Et mon père, qui venait de la région de l'Est, de Westphalie, c'était réformé.
Ah, c'est ça, oui.
Et
votre église en Allemagne de l'Ouest, c'est une église unie entre luthériens et réformés.
Oui, alors il faut savoir que en Allemagne, cette union des églises s'est passée beaucoup plus tôt qu'en France.
Oui, bien sûr.
Beaucoup plus tôt.
Oui.
C'est-à-dire la division qu'il y a eu entre les deux branches de Luther et de Calvin, c'était au XVIe siècle. Et ensuite, des fois par des convenances économiques ou locales, des églises sont unies.
Oui.
Ça, ponctuellement, ça a eu lieu. Mais l'Église telle qu'elle est unie maintenant, ça a été fait après la Deuxième Guerre mondiale, après la réunion à Barmen, avec Nîmes, l'Église confessante.
L'Église qui s'était opposée à Hitler.
L'Église qui s'appelait Bekennende Kirche, Église confessante, pour se démarquer des chrétiens allemands, qui soutenaient le régime nazi. Voilà. Donc, et quand j'ai vu, enfin ici c'est assez récent, l'union des évangéliques et enfin des luthériens, et c'est relativement récent.
Oui.
Bon, et donc juste pour revenir, si tu veux, sur mon enfance.
L'opposition, finalement, qu'on pouvait trouver entre le discours officiel de l'Église et puis la recherche scientifique qui il manquait une sorte de pont,
c'est venu
de dialogue.
Une fois, alors, je pourrais citer mon verset de baptême.
Oui.
Parce que les deux choses qui m'ont toujours accompagnée, c'était ça. J'ai eu un verset pour le baptême et après un verset pour la confirmation. Alors, pour mon baptême, c'était... rappelle que c'est Luc 10, verset 20. Cependant, ne vous réjouissez pas de ce que les esprits vous sont soumis, mais réjouissez-vous de ce que vos noms sont écrits dans les cieux.
Oui.
Et ça, pour moi, c'était quelque chose, c'était pas dans les dogmes, c'était quelque chose qui me reste valable jusqu'à aujourd'hui et que je peux répéter à mes petits-enfants.
Oui.
Et moi, c'est ça qui m'importe, cette intemporalité.
Ah, oui.
Il y a des choses qu'on a juste avec nos connaissances qui changent par rapport au XVIe siècle, par rapport à 2000 ans.
Oui.
Mais pour moi, il y a des choses, des textes, des versets que j'appelle universels,
oui, bien sûr.
Qui restent valables. Et donc ça, c'était pour mon baptême et je l'ai toujours eu avec moi.
Oui. Et la confirmation
Alors la confirmation, c'est particulier. J'ai donc confirmé.
Oui.
Mais je ne croyais pas ce que je confirmais.
Aïe,
voilà.
Aïe,
oui, mais je suis bien rêvée comme ça. Enfin, c'était la classe d'âge du village.
Oui.
Et c'était.
On suivait le groupe.
On suivait le groupe, mais pas comme aujourd'hui, souvent, ce n'était pas une fête autour de cadeaux et de l'argent.
Oui.
Mais en tout cas, j'ai toujours dit à mes enfants que j'avais dit oui, alors que je ne croyais pas. La confession de foi, la Vierge Marie, en français, tout ça, ça ne correspondait pas. Après la confirmation, cette obligation de fréquenter le culte des enfants, c'était terminé.
Ouais.
On passait dans l'âge adulte.
Ouais.
Au lycée, j'ai eu des cours de religion.
Ouais.
Ça, c'était tout un autre discours. On ne parlait pas de foi, mais on parlait quand même de la religion et de l'histoire.
Oui.
Et une fois que je suis partie dans ma ville universitaire, j'ai eu vraiment un contact intense par l'aumônier,
oui.
que c'était tout un autre discours. Les prédications, c'était plus la même chose, c'était un autre monde.
C'était plus existentiel, plus tourné vers aussi l'action.
Ah ben c'était crédible.
Ouais, ah oui.
Ah, j'étais plus dans l'embarras. Ben oui. D'accord. De quel Dieu sommes-nous athées ? Enfin, si je pense au sujet
d'Évangile
à 7. Et donc là, c'était comme une révélation pour moi.
Oui. Mais en fait, le problème que vous avez vécu dans votre enfance en Allemagne peut se retrouver aussi dans nos régions cévenoles, où quand on passe quelquefois dans le protestantisme, on peut passer avec un conseil presbytéral ou un pasteur d'un discours très ouvert sur la foi et puis le monde à un discours très dogmatique. Alors on change de pasteur ou on change de conseil presbytéral, on est dans la même église, dans le même village, et puis on entend un discours très très différent. Et c'est ça, cela n'est pas arrivé, parce qu'il y a une diversité théologique dans le protestantisme pour le meilleur et pour le pire.
Oui, mais ça c'est quand même la grande différence, je trouve, telle que je l'ai vécue, entre la France et l'Allemagne.
Oui.
En France, l'institution, c'est une institution. En France, j'ai l'impression que chaque paroisse faisait un peu ce qu'elle voulait.
Oui.
Oui, non, mais je le formule comme ça parce que cette institution en Allemagne qui collaborait déjà
présente,
avec
quoi.
L'État,
oui.
Ne serait-ce que pour collecter les impôts,
oui.
Le
oui,
dénier
oui.
pour l'Église, rien oui. que ça. Donc, les pasteurs, ils ne pouvaient pas quand même tellement dévier parce que je pense qu'on les rappelait à l'ordre.
Oui.
Je pense,
oui, je comprends.
Parce que j'ai pas approfondi le sujet à l'époque, mais maintenant que je vois comment ça se passe en France, c'est tellement une diaspora.
Oui, oui. Et une fragilité aussi dans le protestantisme
oui,
français.
Oui, mais si vous êtes 5 ou 2%...
Alors, je voudrais que vous puissiez nous raconter, nous dire un peu. Alors, après votre itinéraire, vous avez parlé, vous avez dit que vous avez des enfants qui sont en Suisse.
Oui.
Et puis, pourquoi vous êtes arrivée en France,
voilà.
etc.
Voilà. Bon, suis tombée amoureuse de la France, déjà à l'âge de 14 ans, lorsque j'ai fait les chantiers avec le MCP.
Ah oui.
C'était Mouvement Chrétien pour la Paix.
Ah, c'est ça, oui.
Et avec une amie qui était fille de pasteur, nous avions découvert la France ensemble dans ces chantiers où on devait 6 heures de travail par jour sur un projet qui était préparé en France. Et c'était pour, je pense, pour créer une solidarité entre les jeunes des différents pays.
Oui.
C'est un travail pour la paix.
Oui.
Et nous étions hébergés des fois par la famille Trocmé. Alors, je ne sais pas si c'est le même qu'André Trocmé, qui était à Chambon-sur-Lignon, pasteur qui était actif quand même dans la résistance.
Oui, mais certainement que c'était un peu près, parce qu'il y avait une famille Trocmé assez importante, donc peut-être que ça pouvait être le cousin germain ou le frère d'André Trocmé du Chambon-sur-Lignon.
Ça, pour moi, c'était quand même impressionnant, parce que j'avais 14 ans la première fois. On était au Finistère, à Ménesmeur, dans un parc régional.
Oui.
Et comme le trajet était trop long, la famille Trocmé proposait de nous héberger à Sèvres-Ville-d'Avray.
C'est ça.
Et c'est là que j'ai découvert ces lieux de réunion. Ils avaient un chalet dans le jardin, une bibliothèque en bas, en haut, un genre dortoir avec lit de camp. Et c'était, je pense, c'était un centre d'échange quand même.
Et en même temps, en lien avec le mouvement pour la paix, peut-être.
Oui, le mouvement chrétien pour la paix, ils avaient leur bureau là, dans la rue de Vaugirard.
Mais c'était certainement André Trocmé. Mais est-ce que son épouse était américaine?
Je ne peux pas dire parce que je parlais à peine le français.
Oui,
je
donc vous avez été, vous avez eu un coup de foudre pour la France,
pour la France, pour l'art de vivre, les repas. Enfin, chez nous, c'était très prussien. Donc, c'était vraiment l'art de vivre. Donc, depuis, j'ai passé toutes mes vacances en France.
Ah oui. Et alors, après, vous vous êtes mariée en France.
Alors,
je crois que vous êtes divorcée, là, maintenant.
Oui, j'ai connu mon mari en 75,
oui.
lorsque j'étais dans les Alpes, encore pour un chantier Ah, oui. MCP.
Mais votre mari
est français.
Est français, ah oui,
était
d'accord.
Français, il n'était pas dans ce chantier, mais il habitait là sur les lieux, donc oui. On a fait connaissance à travers la population qu'on connaissait.
Et vous aviez déjà, avec votre formation scientifique, vous étiez devenu professeur à l'époque ?
Non, en 1975, j'étais encore en train étudiante.
Oui.
Donc j'ai terminé mes études en Allemagne,
oui.
Une maîtrise mathématique et une maîtrise langue romane.
Ah oui,
et
les deux,
oui, parce que j'avoue qu'à un moment donné, rien que les mathématiques, c'était un peu aride. Et là, j'ai trouvé le pompon. Je dis, je vais faire langue romane.
Ah oui, c'est formidable.
Et ça m'a permis même de partir une année en France. J'avais obtenu une bourse.
Oui.
Parce qu'à l'époque...
Et vous avez exercé comme professeur en Allemagne
non,
ou en France?
Non, justement, j'ai terminé mes études et aussitôt les études terminées, parce que c'était l'éducation,
oui.
On termine ce qu'on a commencé.
Oui.
Donc, les études terminées, on s'est mariés,
oui.
Enfin, en Allemagne d'ailleurs, et je suis partie donc en France,
ah, oui.
Puisque je savais que pour exercer comme professeur en France, il fallait passer le concours.
Oui.
Donc, pour moi, ça n'avait pas de sens...
De le passer en Allemagne.
De ouais. ce côté pour être fonctionnaire d'État en Allemagne parce que oui. ce n'était pas reconnu. Donc voilà, je suis arrivée donc, en France en 78,
oui.
À l'âge de 26 ans.
Oui. Et vous avez combien d'enfants ?
Alors, j'en ai trois qui sont nés dans les années 80, 80, 84, oui. 87.
Oui, oui.
Pendant ces années-là, j'étais donc maman
oui.
de choix et à plein temps. Mais j'ai enseigné à mi-temps pour ne pas perdre la main.
Ah, d'accord.
Parce que entre 78 et 80, donc j'ai préparé les concours. Mais
vous étiez professeur
de mathématiques.
Des mathématiques, oui.
Oui, oui, pas d'allemand, de mathématiques.
Oui.
C'était ma formation principale.
Ça, c'est
j'étais
bien
pas littéraire, c'est...
Oui.
C'était...
Et vos enfants vivent en Suisse, alors c'est un peu à mi-chemin,
non,
mi-chemin
alors,
de l'Allemagne et la France, quoi.
Non, alors, mais nos enfants ont grandi dans les Bouches-du-Rhône.
Oui, ah oui.
Entre à la bordure de Fos-sur-Mer vers Istres.
Ah d'accord.
Alors c'est pas un lieu de rêve, ouais. Même si on avait un grand jardin. Et là, petit à petit, est quand même né ce rêve d'habiter un jour à Uzès.
Ah oui, vous connaissez Uzès.
Et... Oui, parce que je menais d'accord. les élèves qui venaient vers le pont du Gard.
Ah oui.
L'échange
oui.
scolaire, ça
d'accord.
tombait toujours sur moi, même si ouais. j'étais prof de maths.
Ouais. Et alors, ce qui est assez étonnant, c'est que j'ai été pasteur à Uzès, c'est mon dernier poste, et j'ai arrêté le pastorat pour ma retraite, mais active, où je m'occupais
oui.
de pas mal de choses, mais au moment où vous arriviez en Uzès, ou alors on s'est croisés, mais à peine connus, quoi, quand je suis... Et c'est maintenant, on se connaît dans le groupe Évangile et Liberté, ici à Nîmes, à la Maison du Protestantisme.
Oui, exactement. Oui, c'est
et
ça.
Alors, donc, comment s'est passée votre évolution par rapport à la foi, par rapport
alors,
quand vous étiez jeune maman, puis après responsable, professeur de mathématiques. Comment les choses ont évolué ? Parce que les paroisses françaises, c'est la paroisse de Martigues, peut-être, qui a été la vôtre, qui est très
oui.
fragile, finalement. Mais sympathique.
La paroisse de Martigues, pour moi, évidemment, c'est une découverte.
Oui.
Pasteur sans robe. Au départ, j'ai dit, oh chouette,
ouais.
cette robe noire. Enfin, c'est...
Ouais.
Mais bon, les perceptions changent avec le temps.
Oui.
Entre un t-shirt délavé avec un slogan pour lutter pour l'Arzac,
ouais.
dans un culte. Un culte, pour moi, c'était quand même un service
oui.
Qu'on rendait... Pour un au-delà, quoi,
oui.
plus grand que nous. Pour,
oui.
On a une sorte d'admiration, d'adoration.
Oui.
Voilà, c'était juste ça. Enfin, ça, c'est un détail, dans
oui,
le fond.
Oui.
C'est un détail. Mais c'était, pour moi, donc, très particulier. On était loin, à 20, 25 kilomètres.
Ah oui, c'est
du
ça.
Du temple.
Et oui. Mais
mon
vous
mari
restez...
était catholique,
ah, oui.
mais pas pratiquant, comme
oui.
on disait, pas religieux du tout. Donc,
oui, oui.
en fait, ça reposait sur moi.
Oui.
Et je pense que ça contribue aussi qu'on est peut-être moins bien ancré dans une paroisse,
ah.
si ce n'est pas les deux parents
bien sûr. Oui.
Qui voient une importance.
Oui.
Mais bon, tout ça, j'ai divorcé en 2002, 2003,
oui.
à ma demande.
Oui.
Mais C'était pas une guerre, c'était avec un seul avocat. C'était ma demande.
Oui, et vos enfants étaient grands déjà.
Oui, mais j'avais attendu que... Enfin, le dernier avait donc 15 ans.
Ah, c'est ça.
Bon, alors ça s'est fait pour moi. C'était presque comme une libération. Libération, je ne veux pas dire de ce que j'avais vécu, mais d'avoir pris cette décision.
Oui.
Comme à la confirmation, j'avais quand même dit oui, alors je ne croyais pas. Et j'étais un maillon de ma vie où je vivais quelque chose, où j'avais donné une promesse pour l'amour, mais ce n'était pas ça, ce que je vivais.
Oui.
Ce n'était pas ça, ce que je voulais vivre.
Votre divorce a été une sorte de libération, le courage de dire non, peut-être.
Oui, Michel, mais exactement, parce que là, des fois, on se remémore, mais j'avais osé, il n'y a personne qui m'attendait, je ne suis pas passée de deux bras vers deux autres bras qui m'attendaient, c'était vraiment, c'est la première fois qu'on me dit ça comme ça, comme tu le dis, mais c'est exactement ça, j'avais osé de dire non, pas comme ça.
Ah oui, d'accord.
Pas comme ça.
Et après, comment, après cette... Ça, parce que c'est une épreuve quand même, un divorce, même si le divorce...
Non, l'épreuve, c'était avant. L'épreuve, c'était avant. Là, j'étais claire avec moi-même.
Ah oui.
Et que j'avais pas... Je demandais rien.
Oui,
donc je ne nuisais à personne.
Oui.
Mes trois enfants, ils ont tous dit, il fallait que tu fasses ça, heureusement que tu l'as fait ça.
D'accord.
Sans que ce soit un état de guerre avec leur père, maintenant.
Oui, c'est ça, oui.
Qui vient à Uzès chaque été, d'ailleurs, au mois de juillet.
Oui.
Les enfants sont là.
Ah oui, c'est
mais
bien.
Mais qui est peut-être moins impliqué dans ce qu'on appelle mode famille.
Oui,
bon, je c'est comprends. Ainsi, c'est ainsi, c'est... Bon, c'est propre à chaque personne, en fait, ce choix. Donc oui, une libération. C'est depuis ma vie, ça a été sensationnel.
Oui, et vous avez retrouvé un peu une réflexion théologique, religieuse, maintenant. Alors, à Uzès, professeur en mathématiques à la retraite.
Ah oui, là c'est génial, à tel point que ma deuxième fille me dit souvent « Maman, arrête !» Parce que presque j'en deviens jalouse.
Ah oui.
Donc, quand elle m'entend de la vie, de parler de la vie que je mène maintenant.
Oui.
Donc, mon souci, c'était peut-être tout ce qu'on appelle la foi. Ça n'a jamais été pour moi... quelque chose qui m'a ébranlé. Je crois, je ne crois pas, et je crois que c'était un socle que j'avais.
Oui.
J'avais un socle.
Ce que je voulais réagir, et je vous remercie de ce moment d'échange ici sur Radio Alliance Plus, Suzanne. Donc, avec votre vie ici dans le Midi, puis après votre divorce, ça a permis de changer un peu les paradigmes de votre vie. Et aujourd'hui, maintenant que vous réfléchissez avec le protestantisme libéral, le groupe Évangile Liberté, à la foi, mais de façon beaucoup plus ouverte et non dogmatique, vous retrouvez finalement la spiritualité que vous avez connue un peu au travers de Dorothée Seule. Qui a été très connue en Allemagne et puis en Europe comme une théologienne féministe, mais en même temps qui était très engagée politiquement à l'époque, etc. Mais qui n'a pas été pasteur, qui n'a pas été professeur de théologie en Allemagne, mais qui a été professeur de théologie à New York. Cette spiritualité qui est à la fois réelle, profonde, mais non dogmatique et ouverte vers l'autre, un peu en disant qu'il vaut mieux suivre le Christ que l'admirer, il vaut mieux donc être dans un mouvement, celui de la foi, plutôt que d'une acceptation de la soumission et de l'autorité. Ce texte que vous m'avez lu m'a vraiment intéressé, le texte de la théologienne Dorothée Seule. Yeah.
Je crois en Dieu qui veut l'amélioration de l'être vivant. Je crois en Dieu qui n'a pas créé le monde comme un objet terminé, destiné à demeurer tel qu'il est. Je crois en Dieu qui ne gouverne pas selon des lois immuables et imprescriptibles. instituant des forts et des faibles, des savants et des ignorants. Je crois en Dieu qui veut l'amélioration de l'être vivant. Je crois en Jésus-Christ. Il a travaillé à la transformation de l'état des choses et il y a laissé sa vie. À son échelle, je mesure la petitesse de notre intelligence, parce que nous ne vivons pas comme il vivait. J'ai peur quotidiennement qu'il soit mort pour rien. Quand nous l'enfouissons sous nos rites et nos conventions. Je crois en Jésus-Christ qui est ressuscité dans notre vie, afin que nous soyons libres à l'égard des préjugés et de l'orgueil, de la peur et de la haine. Je crois en l'Esprit que Jésus nous a laissé. Je crois à la communauté de tous les peuples et à notre responsabilité face à l'avenir de notre terre, qui sera ce que nous en ferons, soit une vallée de larmes, soit une cité de Dieu. Alors, à ce texte d'Dorothée Zölle, je rajoute que je crois aussi en ce Dieu qui est amour, oui, qui est pour moi vraiment la base de tout ce que nous entreprenons.
Et en fait, à son époque, donc cette époque qui marque quand même la grande époque du XXe siècle, après la guerre, en fait, Dorothée Zölle a disait que devait être le, c'est pas le dogme qui importe, c'est la libération que peut donner la foi. Dieu est en une relation dynamique avec nous plutôt qu'une autorité statique et immuable. Dieu est un devenir plus qu'une autorité. Et c'est dans ce courant que nous nous rencontrons dans ce groupe Évangile Liberté ici à la Maison du Protestantisme à Nîmes. Merci Suzanne Naque. Merci beaucoup.
Merci à toi, Michel.
Cet entretien. À bientôt.
Merci beaucoup.